BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct pour ce club BFM Crypto. On a des super bonnes nouvelles. Je suis ravie de faire cette émission en direct aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, vous saurez dans 30 secondes. On va parler aussi de réglementation. Mes invités du jour, Thibaut Boutrou, CEO et cofondateur de Meria, est à distance. On va le retrouver dans un instant. William O'Rourke, partner chez Orwell. Bonjour William. Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie de la communication chez Bitstack. Bonjour Alexandre. Et Arnaud Toiti, fondateur de hashtag Avocat, tous en direct dans le club BFM Crypto. Vous savez, vous pouvez aussi nous poser toutes vos questions sur notre adresse crypto au singulier at bfmbusiness.fr. Des questions sur le secteur, l'évolution du secteur. Ça va être le sujet aujourd'hui. Vous allez voir. Vous êtes les bienvenus. On y répond toutes les semaines. Le club, c'est parti. Thibaut Boutrou, je le disais, vous êtes à distance. Bon, ça va être simple. Je vous laisse annoncer la bonne nouvelle.
Eh ben écoutez, enfin on peut officiellement annoncer notre licence MiCA, donc c'est Meria officiellement détenteur du fameux Sésame, au même titre que d'autres acteurs et d'autres compères autour de la table. Donc on est très content de pouvoir enfin l'annoncer après de longs mois fastidieux de discussions avec le régulateur.
On va revenir effectivement sur l'investissement que ça coûte pour une entreprise d'avoir demandé cet agrément. Il y avait 18 mois pour l'obtenir effectivement. D'ailleurs, dites-le moi, ça vous a coûté combien de temps, combien d'hommes, combien d'argent pour réussir à avoir cet agrément et l'annoncer? Là, on est à 8 jours de l'échéance.
Ouais, alors c'est très long et très cher, évidemment. Alors le temps, je ne sais pas exactement, parce qu'en réalité, nous, depuis l'UPSAN, c'est un travail continu jusqu'à aujourd'hui. Et le travail, en réalité, il ne s'arrête pas maintenant. Il continue et les coûts continuent également après l'obtention. La licence n'est pas une fin en soi. Et en coûts, sur les 12 derniers mois, on doit être autour de l'ordre du million quand on prend la globalité des coûts. Donc effectivement, c'est un coût qui est important, qui met une barrière à l'entrée importante. D'ailleurs, on le voit avec beaucoup d'acteurs, pour le nombre d'acteurs qui étaient PSAN, ouais. Et le nombre d'acteurs qui passent cette barrière, on voit qu'il y a un filtrage naturel qui se fait. Et effectivement, pour les plus petits acteurs, ça va devenir très compliqué d'exister dans ce secteur.
Oui, c'est ça. Bon, l'agrément, on le rappelle, couvre l'intégralité de vos services. Conservation, échange, exécution d'ordre, conseil, gestion de portefeuille, transfert. Qu'est-ce que ça vous amène à vous, en tant que boîte crypto, pour la suite?
En réalité, pour tous les acteurs qui ont une licence, c'est plus une continuité. Après, il y a effectivement un tampon qui est un petit peu un symbole de confiance aussi pour tous les utilisateurs. C'est des process en plus. Après, en termes d'opérationnel au quotidien, là, les utilisateurs ne le voient pas forcément, mais c'est vrai que ça change pas mal de choses. Et on monte vraiment de plusieurs crans en termes d'exigences et en termes de process en interne. Donc c'est tout ça qu'il a fallu un petit peu remodeler pendant plusieurs mois. Donc c'est surtout ça qui va changer. Et après, c'est aussi une ouverture de marché puisqu'on va pouvoir aller jouer sur de nouveaux territoires. Ça nous ouvre toutes les portes européennes. Et à l'heure où on a de plus en plus d'acteurs institutionnels qui s'intéressent à notre secteur d'activité, c'est vrai que eux sont très sensibles finalement à ce type de licence. Donc ça va nous permettre aussi de poursuivre certaines discussions déjà engagées, ouais. Mais de se mettre un peu sur un pied d'égalité avec des acteurs un peu plus gros.
Alors, on le disait hier dans l'émission, 5% des acteurs de la crypto ont obtenu l'agrément en Europe. 5%, ça fait quand même très peu, Thibaut, non ?
C'est très peu. Après, ce n'est pas forcément une surprise. Hein. Quand on voit l'écart qu'il y a entre les exigences entre un enregistrement PSAN et une licence MiCA, le fossé il est colossal. Donc on savait très bien qu'il y avait des acteurs qui pourraient pas durer. Il y a aussi une consolidation qui est en train de se faire. Donc en fait il y a des acteurs qu'on voit disparaître, mais qui en fait sont plutôt déplacés ailleurs. Et c'est aussi l'effet marché qui veut ça. On a vu depuis, moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce secteur, on voit des cycles, on voit des opportunistes arriver, et puis quand la vague redescend un petit peu, on les voit disparaître. Donc c'est aussi un effet de marché qui fait qu'on avait beaucoup d'acteurs à un moment donné quand les cryptos étaient sous les projecteurs. Quand c'est un peu plus compliqué et qu'il faut durer sur la longueur, naturellement on a un petit peu moins de monde.
Sacrée consolidation. La France est l'une des juridictions les plus exigeantes au monde en matière de réglementation et de régulation crypto. Tiens, d'ailleurs, Paymium l'a eu aussi, je l'ai appris tout à l'heure. Thibaut, vous restez en direct avec nous pour réagir. Une réaction aussi, Alexandre, ça y est, ça tombe. On a 8 jours de cette échéance. Il y a très peu d'acteurs qui l'ont. Là, c'est des bonnes nouvelles quand même. C'est des gros acteurs qui tombent.
Oui, c'est des bonnes nouvelles. Alors, MiCA, de manière générale, ça fait maintenant un certain temps que c'est à la fois dans les coulisses, dans les discussions, puis voter, puis la période de transition. Donc, on arrive à cette échéance du 1er juillet. Si on se place du côté du consommateur, c'est une bonne nouvelle. Le marché se consolide, mais c'est évidemment plus de protection, plus de cybersécurité, plus de garanties sur la bonne tenue, l'honorabilité des dirigeants, etc., etc. Donc, pour le consommateur, ça veut dire bonne nouvelle, parce que concentration sur des acteurs qui sont sérieux, donc en qui on peut avoir confiance, chez qui on peut mettre ses bitcoins ou ses autres cryptos. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, évidemment, la vision nuancée, c'est de dire quel est le prix à payer pour cette concentration. C'est une question de timing de cette réglementation. Est-ce que c'est 5% qui réussissent à l'avoir? Est-ce que c'est normal? J'ai vu certains qui disaient, voilà, une réglementation dont l'effet immédiat, c'est que 95% des acteurs meurent. Peut-être que c'est pas une bonne réglementation, mais là c'est du point de vue de la compétitivité de l'économie. Et puis surtout, si on compte les acteurs un par un, je sais pas si le chiffre est très pertinent, parce que dans les 95% qui ne survivront pas, peut-être qu'il y en a une très grande majorité qui sont en fait une seule personne, deux personnes, des toutes petites entreprises. Et donc, c'est des acteurs sérieux, évidemment, qui vont continuer à opérer. Ouais. Nous, chez Bitstack, ça fait un an qu'on l'a. Donc, on regarde cette période avec un peu plus de sérénité, mais on est évidemment solidaire de tout ce travail acharné qui est fourni par les autres acteurs qui sont sur la ligne, le finish en ce moment, parce que c'est effectivement extrêmement dur d'obtenir ce niveau de licence.
Vous avez raison de le rappeler. Vous l'avez eu tôt, hein, finalement, ouais, dans ce délai. Thibaut Boutroux, pour finir, ça montre sur quels acteurs, finalement, les investisseurs vont pouvoir s'appuyer pour continuer à tabler sur la crypto de demain.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est ce qu'Alexandre disait. C'est vrai que ça fait un filtre supplémentaire pour les utilisateurs. On condense encore davantage les acteurs, et donc la sélection va être un petit peu plus simple pour les utilisateurs. Si je peux rebondir et juste le point qui est peut-être un peu négatif pour les utilisateurs, c'est que cette consolidation et les exigences nous amènent aussi quelque part dans un espèce d'entonnoir où on voit de moins en moins de différence aussi entre les plateformes. Donc ça devient effectivement un peu plus compliqué de faire de l'innovation, un peu plus compliqué de se démarquer. Oui. Et au final, à part en fait sur les grilles tarifaires, on va retrouver plus ou moins des services qui se ressemblent à droite et à gauche. Donc, c'est peut-être le côté qui est un petit peu dommageable pour l'utilisateur final, mais d'un autre côté, c'est vrai que pour le grand nombre, ça permet quand même de protéger la majorité.
William O'Rourke.
Juste deux remarques pour compléter ce qui vient d'être dit. La première, attention, pour les gens qui nous écoutent, l'agrément MiCA, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on parle par exemple de trois acteurs, Paymium, Meria avec Thibaut et Bitstack où travaille Alexandre. Ces trois acteurs qui ont des agréments sur des périmètres différents.
Oui.
Paymium est une plateforme de négociation, donc une bourse en quelque sorte. Meria, ils ont une activité de staking qui est assez unique à ma connaissance, en tout cas dans les acteurs agréés en France. Bitstack a encore d'autres services et un autre fonctionnement. Et ça joue. Alors après, il y a un cadre global, mais je veux dire, il faut aussi prendre ça en compte. Et le deuxième élément, mais je pense qu'on en reparlera peut-être avec Arnaud plus tard, notamment sur l'objet de la consultation MiCA, c'est que ce qu'on peut regretter sur l'aspect compétitivité, c'est que MiCA a été pensé justement comme un bloc. On a demandé à tout un secteur, aucun secteur financier n'a été réglementé aussi rapidement. Enfin, c'était non réglementé en 2020, et aujourd'hui, c'est des entreprises d'investissement, c'est-à-dire on est entre les établissements de paiement et les établissements de crédit. Et il n'y a aucune progressivité dans l'application de la réglementation. Ouais. C'est, je pense, un angle mort sur la réglementation européenne financière aujourd'hui.
Et la raison pour laquelle, effectivement, il y a une consultation avant même la fin de l'échéance, Arnaud Toiti.
Absolument, et deux ans après, je rappelle, hein, puisque effectivement, le MiCA est assez récent, rappelons-le tout de même, même si on en parle beaucoup, on a l'impression que c'est un texte qui a 10 ans d'ancienneté et qui est en réalité 2 ans. Et à peine 2 ans après, on commence déjà à s'interroger sur ce qui préfigurerait un éventuel MiCA 2. Ouais. Donc ça laisse quand même augurer pas mal de choses. Juste peut-être rapidement pour rebondir sur l'agrément de Meria. C'est vrai qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle. Après, tout à l'heure, Thibaut indiquait que ça permettait à Meria de pouvoir aller viser le marché européen, ce qui est quand même un grand avantage de cet agrément MiCA. Mais aussi à l'inverse, ça veut dire que des acteurs extrêmement puissants qui ont obtenu l'agrément depuis longtemps maintenant ont déjà pénétré le marché français. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces acteurs-là ont des moyens qui sont absolument considérables quand on les compare avec ces boîtes, même si ce sont des acteurs importants en France. Quand on doit faire face à des Kraken qui ont des budgets qui sont 10, 15, 50 fois supérieurs, c'est vrai que quand on fait du B2C, quand on s'adresse à des utilisateurs, moi, ça peut générer une légère inquiétude pour l'avenir que j'espère résorber rapidement. On verra.
Thibaut, répondez à cette inquiétude.
Non, mais c'est inquiétude qui est parfaitement légitime. Et d'ailleurs, les ordres de grandeur sont parfois bien plus grands que ce qui a été évoqué. Hein, parce que là, on parle de Kraken qui est un acteur crypto, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des acteurs comme Revolut, comme eToro, comme Trade Republic, qui jouent aussi maintenant sur le même terrain de jeu. Donc, c'est certain qu'il y a un aspect compétitivité qui est de plus en plus fort, à un moment où en plus on a une croissance en termes d'adoption qui croît toujours mais qui a tendance un petit peu à ralentir. Donc c'est vrai que l'acquisition devient de plus en plus chère et ça refait écho à ce que William a dit. C'est aussi pour ça que il a dit quelque chose de très juste par rapport à Meria, c'est que nous aujourd'hui on est le seul acteur en tant que régulé qui a aussi la casquette staking provider, c'est-à-dire que on a effectivement cette dimension plateforme d'investissement, mais qui est pas le seul pan de notre activité. Mmh. Et aujourd'hui, une grosse partie de notre activité, nous, repose sur la partie staking, où on va justement aller équiper ce type d'acteurs qu'on vient de citer précédemment. Donc après, c'est à chaque acteur de trouver un petit peu le bon positionnement, le bon angle pour justement exister dans cet environnement qui est de plus en plus exigeant et de plus en plus compétitif.
Oui, effectivement, il faut des idées, il faut de l'innovation. Tiens, en parlant d'idées et de bonnes nouvelles, une autre bonne nouvelle, Alexandre Stachenko, une annonce ce mardi, c'est pareil, je vous laisse parler.
Exactement, déjà avant de parler de la solution et de l'annonce, juste rappeler le contexte. Aujourd'hui, les Français ont à peu près 1000 milliards d'épargne qui dorment soit sur des comptes courants, soit sur des livrets réglementés, qui sont très souvent, pas toujours, mais très très souvent rémunérés de façon inférieure à l'inflation.
Vous parlez du livret A, notamment
En partie, effectivement, ouais. En partie substantielle. Il y a le LDDS, il y en a d'autres. Mais nous, chez Bitsa, notre mission, c'est de pouvoir permettre aux gens de se réapproprier leur épargne, de construire leurs objectifs de vie et donc de préserver leur pouvoir d'achat sur le temps long. Alors, il y a une jambe qui est importante, qui est Bitcoin. Et évidemment, c'est notre ADN depuis le début. Et on a voulu s'insérer dans le quotidien des gens à travers l'arrondi, la carte, etc. Parce qu'on pense que la réponse à long terme, c'est de changer tout simplement de système monétaire, de réfléchir en Bitcoin, quelque chose qui ne se manipule pas, qui n'est pas débasable, etc. Mais on peut pas dire à quelqu'un mets tous tes œufs dans le même panier, et il y a une partie substantielle des gens qui veulent aussi pouvoir garder une partie de leur argent dans quelque chose qui est plus disponible, qui est moins exposé à la volatilité et qui pourtant préserve le pouvoir d'achat. Et donc effectivement, on en arrive à cette deuxième jambe où aujourd'hui on va compléter notre offre de produits avec une solution de rendement en euros qu'on annonce aujourd'hui donc avec notre partenaire la belle fintech française Spyco et qui nous permet d'offrir un taux rémunéré de 2,51% net de frais à tous nos clients via donc ils peuvent passer par le compte Eurobitstack pour le mettre dans cette poche, dans ce fonds qui est donc géré par Amundi contrepartie bancaire BNP Paribas et KCIS en conservation. Donc on avait envie de pouvoir proposer cette deuxième jambe qui en fait complète la première. Je dis souvent qu'il ne faut jamais se retrouver dans une situation où on est forcé de vendre ses bitcoins. Parce que les bitcoins, c'est du long terme. C'est pour ça qu'on fait de l'épargne programmée, lissée sur le temps long. Donc on a cette jambe qui vient compléter et dire, même pour les actifs de court terme, même pour l'épargne, entre guillemets, de précaution, vous pouvez avoir un rendement qui vous permet de vous protéger, au moins substantiellement, de l'inflation.
C'est intéressant parce que l'acteur crypto que vous êtes, qui a eu cet agrément donc il y a un an maintenant, va sur les plates-bandes de la finance de tous les jours, la finance traditionnelne des Français. Vous avez 350 000 utilisateurs actuellement. Comment vous allez réussir à convaincre peut-être davantage le public à faire ça chez vous? Comment vous allez faire ça? Élargir?
Déjà, nous, notre ADN, ça reste notre conviction forte sur Bitcoin. Donc, il y a une conviction sur Bitcoin et puis il y a aussi une conviction sur comment Bitcoin. Et donc, nous, là, on a été assez innovants et on a poussé vraiment le raisonnement jusqu'au bout. C'est qu'on s'est dit, pour beaucoup de gens dans le Bitcoin, en fait, c'est aux personnes, c'est aux citoyens, aux consommateurs de s'adapter à Bitcoin, de venir devenir quasiment du jour au lendemain des Bitcoiners maxi, en self-custody, etc., etc. Nous, on a fait le raisonnement inverse en disant, si on veut démocratiser Bitcoin, c'est à nous de faire l'effort de rentrer dans le quotidien des gens. Donc, ça passe par l'arrondi, ça passe par l'indolore, ça passe par le quotidien. Et cette solution de rendement, elle vient dans la même démarche. Bitstack, il y a un an et demi, c'était de l'épargne programmée en Bitcoin. Aujourd'hui, c'est aussi un compte euro, c'est une carte de débit qui sort publiquement le 1er juillet, très bientôt. Et c'est donc cette solution de rendement qui vient compléter une solution globale et qui, à notre sens, va permettre d'être beaucoup plus attractif parce qu'on va pouvoir à la fois gérer ses euros de court terme, faire ses dépenses par la carte de crédit, avoir cette solution de rendement pour les euros qui dorment et puis son épargne Bitcoin sur le temps long, évidemment protégée par un acteur donc dont on a fait la réglementation aussi une partie de notre ADN. Donc ça ne veut pas dire que d'autres acteurs, Thibault en a mentionné un certain nombre tout à l'heure, ne font pas plus, différemment, avec un autre ADN, etc. Mais c'est le dernier point, c'est que nous, d'un point de vue de la marque et de ce qu'on veut inspirer chez le consommateur, il y a aussi eu cette vraie distinction, ce vrai choix de dire c'est Bitcoin, c'est pas autre chose. Et donc, ça a créé un vrai effet de bouche à oreille où les gens se sentent en confiance de recommander Bitstack à leurs proches, de mettre des liens de parrainage, de ramener leurs amis, leurs parents, etc. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas un levier x100 sur Dogecoin, qu'il n'y aura pas un truc bizarre avec une crypto qui s'effondre le lendemain. Donc, on doit aussi, dans notre ADN, préserver cet aspect confiance. Et dans ce taux qu'on propose, c'est aussi ce qu'on a choisi. On est allé sur un fonds qui, certes, est plus compétitif que le livret A, même après impôt, mais on l'a fait sur un fonds qui est aujourd'hui classé risque 1 sur 7, donc c'est le plus bas qu'on puisse avoir dans la classification officielle.
C'est
que d'autres concurrents proposent plus, mais il faut regarder aussi le risque qu'on prend en face de chaque rendement. Il n'y a rien qui est gratuit.
Thibaut, ça me donne envie de vous poser cette question. À quoi vous pensez que le secteur va ressembler demain? C'est-à-dire que, voilà, on commence à avoir une finance traditionnelle et une finance crypto qui s'arrangent, qui commencent à travailler ensemble, qui commencent à penser l'un à l'autre. C'est plus une séparation nette et précise comme il y a encore un an et demi.
Non, c'est clair. Et c'est assez excitant en réalité d'un point de vue intellectuel parce que ça ouvre la porte à plein de nouvelles réflexions. Maintenant, on travaille plutôt main dans la main et pas en opposition. Donc, les deux, on va dire que les deux mondes livrent leur expérience chacun de leur côté et ça permet de donner naissance à ce que vient de décrire Alexandre. Hein, le montage qu'il y a derrière cette solution est hyper intéressant. Et on a tout un pan qui est en train d'émerger aujourd'hui avec notamment les actifs tokenisés ou ce genre de choses qui va impliquer une collaboration naturelle en fait entre les deux acteurs. Donc le merge est en train de s'opérer pour le meilleur et pour le pire. C'est certain que on va perdre certains acteurs dans la course, mais d'un autre côté, si on veut que cette industrie à un moment donné passe à échelle, il faut aussi augmenter les standards d'exigence. Donc c'est aussi assez logique. Maintenant, et pour revenir un peu sur la partie réglementaire, il faut espérer que ces plus jeunes acteurs agiles qui ont cette capacité d'innovation puissent continuer juste à bidouiller, à émerger un petit peu avec du savoir-faire pour pouvoir créer des choses nouvelles.
Une question dans ce contexte à une semaine de la fin de l'échéance pour l'agrément MiCA. Une question sur Binance. On ne sait pas ce que ça va donner, William O'Rourke. On a des précisions sur...
Si quelqu'un sait, il faut vraiment qu'il appelle le standard tout de suite, en urgence.
Alors ?
Non, c'est vrai que c'est un sujet qui est dans toutes les conversations. Ouais. Pour une raison simple, Binance reste le plus gros acteur européen. Ils ont des informations que j'ai pu glaner. Alors, je suis pas un expert en tech ou en finance, mais ils ont quand même quelques millions encore d'utilisateurs en Europe, au moins dans les 4 ou 5, je parle vraiment dans les particuliers. Ils ont quelques centaines de milliers d'utilisateurs en France. Ça reste une plateforme qui est incontournable, on va dire, pour le grand public qui veut investir dans la crypto. Qu'on s'en réjouisse ou pas, et ça reste un acteur qui est incontournable à l'échelle du marché puisque ils sont c'est souvent vers eux que ça fait partie des plateformes où il y a quand même beaucoup de liquidité. On a suivi un peu là depuis quelques semaines, depuis quelques mois, une sorte de drama où Binance allait à la porte de tous les régulateurs, finir en Grèce. Je rappelle que la Grèce en finance c'est quand même une petite juridiction pour le dire poliment. Et très sincèrement, le fait qu'ils aient délivré un seul agrément PSA pour le plus gros acteur d'Europe, je pense que ça aurait été politiquement compliqué vis-à-vis des autres régulateurs. Il y a eu des pressions, je pense, entre régulateurs européens pour que Binance n'ait pas leur agrément en Grèce, visiblement, ouais. Ce qui a été annoncé par Reuters. Et là, du coup, on se retrouve en effet à une semaine de la deadline avec un Binance qui risque très fortement, en réalité, de se retrouver sans agrément et donc devoir mettre fin à ses activités. Alors, je rassure tout le monde, c'est pas une cessation du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prendra du temps et je pense qu'il prendra beaucoup de temps, qui prendra des mois, pendant lesquels les gens vont avoir le temps de retirer leurs crypto-actifs et à la fin, s'il reste des comptes un peu perdus ou en déshérence, Binance devra les transférer à un acteur PSA. Mais la grande inconnue pour moi, c'est même pas tellement... cette fin d'activité avec le client, la clientèle retail, c'est l'effet sur le marché européen.
Ouais.
C'est-à-dire que ça va créer un trou, clairement, et notamment dans tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les relations entre les PSCA, entre les acteurs crypto aujourd'hui qui ont des comptes chez Binance et qui se fournissent en liquidité. Et là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais en termes de flux, c'est beaucoup plus important que le compte de Jean-Michel qui a 200 euros chez Binance. Quoi.
Arnaud, votre avis là-dessus ?
Alors déjà, comme l'a dit William, pour l'instant, on se base sur un article de Reuters, effectivement. Bon, Reuters, c'est pas un média entre guillemets, enfin, on parle quand même d'un grand média. Pour autant, ça reste un article et je crois, sauf erreur de ma part, que ça a été démenti quand même assez rapidement par Binance. Enfin, démenti en tout cas. On va dire qu'ils ont voulu rassurer. Donc, à ce stade, il n'y a rien qui est effectivement officiel, disons-le quand même, même si effectivement le coup près pourrait tomber dans les tout prochains jours. Donc, on parle vraiment d'une question de jours là, ouais. Là pour le coup. Cette difficulté entre avec ce régulateur potentiellement, ce régulateur grec, c'est vrai que ça pose questionnement. Je crois avoir également lu, peut-être toujours dans la presse, que semble-t-il, peut-être que la France aurait des velléités de
Christine
pouvoir
Lagarde
éventuellement...
aurait redétourné l'affaire vers la France.
Je ne sais pas, encore une fois, quelle est la réalité de tout ça. Je sais pas quelle est. C'est difficile de se baser effectivement sur des informations qui ne sont pas prouvées en tout cas à ce stade. En ce cas-là, ça poserait aussi la question peut-être de la volonté, je rappelle, qui était celle de la présidente de l'autorité des marchés financiers de pousser, comme d'autres régulateurs, vers une supervision européenne. Est-ce qu'un acteur, par exemple, comme Binance, plutôt que, comme l'a dit William, d'aller faire le tour des popotes et d'aller voir chacun des régulateurs, est-ce que pour ce type d'acteur-là, qui est quand même pas n'importe quel acteur, finalement, ce type de supervision européenne n'aurait pas plus de sens, parce que finalement, ce serait une décision qui serait prise plus haut.
Mais il y aurait une deuxième salve possible, justement, si jamais il n'est pas du tout accepté.
Écoutez, je crois pas, parce que en tout cas le propos c'était de dire qu'à partir de l'instant où on allait voir un régulateur et qu'on avait un stop, je suis pas certain que ce soit open bar, si vous me permettez l'expression, en allant voir les autres. Ça veut pas dire qu'il y a une interdiction de principe, mais ça veut dire que ça me semble quand même plus difficile.
William,
peut-être un point là-dessus, parce que en fait, ce qui est intéressant avec Binance, c'est que c'est un dossier qui est en fait en réalité totalement politique. On est hors de... Enfin, moi, j'entends parfois des gens qui me disent « Je comprends pas, Binance a l'air d'être sur un autre terrain. » La réalité, c'est que oui. La France a été la terre d'élection de Binance à une époque, sur l'enregistrement PSAN. La France et l'autorité des marchés financiers et les administrations françaises ont aussi été les administrations qui, entre guillemets, ont un peu coulé Binance. Je rappelle que Binance a 3 enquêtes pénales en France et qu'on a donc un problème de compatibilité entre la situation de Binance et l'obtention d'un agrément en Europe. La condamnation de Binance aux États-Unis a été très bien reçue par les régulateurs européens. La grâce par Donald Trump n'a pas été reçue. En réalité, il y a plein de facteurs aggravants pour Binance en réalité. Et aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est que Binance se retournerait, je parle au conditionnel, vers la France, alors que c'est un peu le pays qui, en réalité, lui a fermé la porte.
Il y aurait des conséquences sur des acteurs, je vais vous poser la question tous les deux pour finir, mais sur des acteurs français agréer qu'une boîte aussi grosse, avec autant d'utilisateurs, finalement soit interdite du marché européen. En stratégie, on y pense avant l'échéance.
Évidemment.
Alexandre
En tout cas, pour les clients Bista, il n'y aura pas de conséquences. Binance n'est pas un fournisseur de liquidités et de toute façon, on n'est que sur Bitcoin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas ce qui pourrait être un enjeu pour d'autres acteurs crypto. Si vous êtes branché à Binance pour des jetons, par exemple, qui ont une faible liquidité et dont Binance fait 80% du volume, c'est sûr que du jour au lendemain, peut-être éventuellement, vous allez vous retrouver avec un jeton qui n'est plus liquide, avec un fournisseur de liquidités qui ne peut plus répondre. Et là, pour les clients, il y a un impact immédiat, à la fois en termes de disponibilité des fonds, ce qui peut commencer à faire peur, et en termes même de prix, parfois. Si l'actif n'est plus échangeable, parfois il va juste s'effondrer tout simplement. Donc pour les utilisateurs de Bista, je rassure, ça n'est pas notre cas. Mais en revanche, effectivement, d'un point de vue stratégie, c'est aussi pour ça que quand on fait ces investissements très en amont sur la partie conformité, on subit des investissements, on subit des coûts beaucoup plus tôt que les autres. Mais le jour où effectivement d'autres acteurs n'en sont pas en capacité, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de consolidation, maintenant... Entre effectivement nos annonces de nouveaux produits, notre présence, on est pour ceux qui fréquentent le métro, nous sommes maintenant également dans le métro.
C'est vrai.
C'est à nous de convaincre les personnes qui seront orphelines le 1er juillet qu'il y a des solutions régulées qui peuvent se substituer. Accessoirement, si c'est le moment de se recentrer sur Bitcoin, ça peut faire probablement aussi du bien à tout le monde.
Thibault, les conséquences éventuellement pour Meria.
Ouais. Nous, il y en a deux. Il y en a une première qui est plutôt une opportunité, c'est-à-dire que nous on voit un flux d'utilisateurs arrivé depuis ces quelques jours-là, venant de Binance. Souvent, les utilisateurs dans la crypto sont assez souvent multiplateformes, c'est-à-dire qu'ils ont rarement un compte sur une seule plateforme. Et donc, Binance étant un des acteurs incontournables, beaucoup d'utilisateurs qui ont déjà des comptes sur d'autres plateformes ont aussi des comptes sur Binance. Donc nous, on voit beaucoup de gens qui avaient des comptes et chez nous et chez Binance qui transfèrent en fait leurs fonds de Binance à chez nous. Et après, il y a effectivement un sujet opérationnel, alors qui, nous, à notre échelle, nous touche peu aujourd'hui parce qu'on a fait ce travail, parce que nous, du coup, on va se sourcer effectivement sur ces différentes places de liquidité, dont Binance. On a fait ce travail en amont d'être connecté à plusieurs places de liquidité. Donc aujourd'hui, nous, on est assuré en backup. Par contre, effectivement, pour ceux qui n'ont pas fait ce travail en amont, ça peut être extrêmement compliqué, surtout que les onboardings aujourd'hui, pour aller s'onboarder chez un gros exchange, que ce soit chez Kraken, chez Bitpanda ou chez n'importe quel autre gros acteur qui va pouvoir fournir de la liquidité, bah, les onboardings sont extrêmement longs. Et si on n'a pas anticipé et qu'on se sort exclusivement aujourd'hui chez Binance, qui est la plateforme sur laquelle il y a le plus de liquidité en Europe, bah, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Et là, il y a aussi deux niveaux d'échelle. Si on traite uniquement des cryptos du top tiers, Bitcoin, Ether, etc., il n'y aura pas trop de problèmes de liquidité parce qu'il y a de la liquidité sur l'ensemble des plateformes. Par contre, si on descend un petit peu en exigence et qu'on va sur des actifs un petit peu plus exotiques, là, effectivement, on peut se retrouver à avoir certains assets qui sont pas forcément disponibles sur les autres plateformes. Et donc, il va y avoir des communications parfois un peu délicates à faire à certains clients qui aujourd'hui sont exposés à ces assets. On n'aura pas forcément toute la latitude pour vendre dans des bonnes conditions.
Pour finir, messieurs, William.
Non, juste un point pour aller un peu au-delà de Binance, c'est que ça, je trouve que la situation de Binance, même si, encore une fois, leur cas est très particulier, ça illustre quand même quelque chose qui était à la fois prévisible et qui reste très surprenant, c'est que malgré ces 18 mois de période de transition, ça a quand même été la course du début à la fin et on termine avec un gros embouteillage. Je rappelle qu'il y a il y a encore de nombreux dossiers qui sont en cours d'instruction devant l'AMF à 8 jours de la deadline.
Tout le monde n'a pas géré les...
Il y a un dernier collège, le 2, c'est ça qui sera toléré, je crois.
Moi, je pense que l'été sera chaud. Mais vraiment,
j'ai une façon de le dire.
Arnaud, pour finir, non, 30 secondes.
Juste peut-être pour finir, si effectivement Binance n'est pas régulé en Europe, moi, j'ai un peu la sensation d'une sorte de Tether bis, si vous voulez, c'est-à-dire d'acteurs immenses, très importants, qui finalement, on repousse hors d'Europe. Alors peut-être que Tether souhaitait aussi que ce soit le cas, mais vous voyez ce que je veux dire, et qu'au final, on se retrouve avec des acteurs énormes qui finalement pourraient être en dehors. C'est des recettes fiscales en moins, c'est un contrôle en moins, parce que quand vous régulez pas en Europe, bah forcément vous contrôlez moins. Et je suis pas forcément certain que la stratégie soit la bonne.
On en reparlera dans l'été, évidemment, avant de nous quitter pour la période estivale. Merci à tous les quatre d'avoir fait cette émission. Thibaut Boutroux de Meria, William O'Rourke d'Orwell, Alexandre Stachenko de Bitstack, Arnaud Toiti d'Hashtag Avocat. Merci, messieurs, d'avoir été dans cette émission. À retrouver en podcast et en replay. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.